À l'occasion du cinquième centenaire de la réforme de Martin Luther, nous vous proposons cette quatrième conférence du temps de carême enregistrée au couvent des Dominicains de Toulouse sur le thème « À Dieu seul sa gloire et les saints en rayonnent » avec pour conférencier Frère Pavel Sisoyev. Bonne conférence à tous.
Marie, un écho admirable, tu cries Marie, elle répond Dieu. Vous connaissez probablement cette phrase de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort qui commente la scène de la Visitation. Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, il y a cette jubilation de l'Esprit-Saint dans les deux femmes et Élisabeth s'écrie « Tu es bénie entre toutes les femmes » et Marie répond « Mon âme exalte le Seigneur ». Cette rencontre et ce que Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort en perçoit nous plonge au cœur de notre sujet. Marie, un écho admirable. Tu cries Marie, et elle répond Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes, mon âme exalte le Seigneur. Le cœur de la dévotion de l'Église catholique à l'égard des saints est là. Nous admirons dans les saints l'œuvre de Dieu. Et Dieu, nous le croyons, est heureux de la gloire de ses enfants et ses enfants entrés, amenés par lui dans sa gloire, nous renvoient à cette immense générosité de Dieu qui ne retient rien pour lui, mais qui nous donne si grandement la part à sa vie. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce, dit le psaume. Ce qui est vrai de l'œuvre de la création est encore plus vrai et encore plus admirable pour l'œuvre du salut, pour l'œuvre de la rédemption. La création parle de Dieu, comme nous l'enseigne saint Paul, à travers les œuvres de Dieu, ce qu'il y a d'invisible en Dieu, sa puissance, sa force, depuis la création du monde, se laisse contempler à travers l'ouvrage de ses mains. Vous reconnaissez cet enseignement du premier chapitre de l'Épître aux Romains, Romains 1, 20, donc cette création qui nous renvoie à Dieu et de même, ce qui nous parlera de Dieu avec un éclat encore plus grand, c'est cette splendeur de Dieu manifestée dans ses saints. Je serai très honnête, la question proprement luthérienne m'intéressera relativement peu. Nous nous concentrerons surtout sur les fondements bibliques, spirituels, de ce culte des saints, de la théologie des saints dans l'Église catholique. Mais je remarque que dans la formation que Luther reçoit, avec une sorte de pessimisme qui marque la fin du Moyen-Âge, il est à la fois exaspéré par une sorte de surcharge des médiations, il y en a trop, et en même temps, il ne croit pas du tout à leur efficacité. Il aura beaucoup du mal à accepter que la création puisse parler de Dieu. Pour Luther, l'homme corrompu par le péché originel n'est plus capable de déchiffrer la gloire de Dieu à travers le créé. Nous sommes trop repliés sur nous-mêmes. L'homme ramène tout à lui. Du coup, la philosophie humaine n'est plus capable de s'élever vers Dieu. La création n'est plus pour nous, les hommes déchus, le chemin qui nous mène à la contemplation de Dieu. C'est pour cela qu'il dira, lorsque l'apôtre nous parle de la substance, il ne parle pas de la substance de ce monde, il parle de la gloire à venir. Donc du coup, lorsque le philosophe nous enseigne à contempler ce monde, en réalité, il parle de leur orgueil. Et dans ses fameuses thèses, il dira, il est faux d'affirmer qu'on ne peut devenir théologien que grâce à Aristote. Au contraire même, écrit Luther, c'est contre Aristote qu'on devient théologien. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce contre Aristote? Une chose assez simple, somme toute. À partir du créé, l'homme déchu ne peut pas s'élever vers Dieu. L'homme déchu, en contemplant la création, se contemple, s'admire, se glorifie. Il doit s'abandonner, s'oublier. Il doit se tourner contre Aristote, se tourner résolument vers le Christ. Et c'est là où il deviendra véritablement chrétien et véritablement théologien. Quelque chose de semblable est aussi à l'œuvre dans la pensée luthérienne, dans sa critique de ce culte des saints omniprésents à la fin du Moyen-Âge qui l'exaspère. Il lui semble que ce culte des saints fait écran à un rapport immédiat, cordial, simple avec Dieu. Que cette simplicité, cette confiance absolue que nous devons avoir notre foi en Dieu, en quelque sorte, on n'est pas trop sûr de lui, de son amour, de son dessein bienveillant. Du coup, on se rattrape sur la multiplicité des médiations. Du coup, il nous faut abolir tous ces intermédiaires qui parasitent sur la foi simple, sur cette confiance immédiate dans la parole de Dieu. Il a beaucoup du mal avec la philosophie dont il hérite de penser la générosité divine. Pour lui, ce que nous affirmons de la créature, nous l'enlevons en quelque sorte à la gloire de Dieu. Donc du coup, il nous faut abolir cette présence du créé pour entrer dans l'immédiateté du rapport avec la parole de Dieu pure, efficiente, sans autre intermédiaire que cette parole elle-même. Cela n'empêchera pas à Luther d'avoir personnellement une dévotion profonde et tendre à l'égard, par exemple, de la Vierge Marie. Et vous pouvez lire son commentaire magnifique et admirable sur le Magnificat. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant sortir de ce respect dû au saint ou à l'admiration que provoque l'Écriture en narrant ce qu'ils accomplissent, que cette posture du culte des saints qui nous empêche d'avoir une relation immédiate avec Dieu. Pour saisir la conception catholique qui est au fond très semblable, pour ne pas dire identique à celle des églises d'Orient, du culte des saints, il nous faut bien comprendre ce mystère de la générosité divine. Les pères, en parlant de l'Église et donc des saints, vont souvent utiliser l'image du mystère de la lune, le mystère de l'Église, le mystère des saints, est en quelque sorte mysterium lune. Ces luminaires rayonnent de la lumière reçue de ce soleil unique qu'est Dieu. Et Dieu crée le monde dans sa générosité pour que, pour reprendre l'expression de la quatrième prière eucharistique, beaucoup se réjouissent de sa lumière. Il y a en lui une surabondance de cette bienveillance, de cette bonté. Il veut, il se plaît à amener à l'existence des êtres innombrables qui non seulement se réjouiront de sa lumière, mais qui rayonneront de sa lumière. Il crée des grands et des petits luminaires, de sorte que dans ce monde créé par lui, il n'y a pas plus de vie qu'en lui tout seul. Il n'y a pas plus de gloire en Dieu tout seul qu'en Dieu le monde. Il n'y a pas plus d'être en Dieu et le monde qu'en Dieu tout seul. Il n'y a pas plus de sainteté en Dieu et le monde qu'en Dieu tout seul. Mais il y a plus de luminaires, il y a plus de vivants, il y a plus d'êtres, il y a plus de saints. Les saints, en cela, n'ajoutent rien à la sainteté de Dieu. Les saints ne rendent pas Dieu davantage saint. Ils participent de sa sainteté, ils en rayonnent, ils en réjouissent. Et surtout, et c'est là toute la splendeur de ce mystère de la lune, ils se mettent au service de la sainteté les uns des autres. C'est une chose grande et admirable, dit Denis l'Areopagite, repris dans une de ses conférences par Saint Jean de la Croix. C'est une chose grande et admirable, dit-il, que d'être sauvé, devenir participant de la nature divine, comme dit l'Écriture dans l'Épître de Pierre. C'est une chose plus grande encore, continue Denis, que de prendre part à cette œuvre de salut. C'est pas comme disait saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Et la sainteté des saints, qui n'est qu'une participation à la sainteté de Dieu, les engage au plus profond d'eux-mêmes. Ils payent véritablement de leur personne, de sorte que cette charité dont ils rayonnent vient tout entière de Dieu et passe tout entière par leur cœur. C'est une chose grande et admirable que de devenir participant de Dieu. C'est une chose plus grande encore que de prendre part à ce salut. Mais la chose la plus grande, dit Denis, est véritablement divine. C'est de servir le salut des autres. Non seulement les saints recevront leur sainteté de Dieu. Et cette réception ne sera pas purement passive, comme une lune qui reflète la lumière du soleil, qu'elle le veuille ou non. Les saints veulent répondre à cet appel, et cette volonté elle-même est créée en eux par Dieu, mais en plus, ils se mettent au service de la sanctification des autres. Leur sainteté rejaillit sur nous. Et là, nous entrons dans la communion des saints. Luther était particulièrement sensible à la misère de l'homme après la chute. Contre l'exaltation de l'époque de la Renaissance, il insiste lourdement sur l'esclavage de notre volonté. L'homme ne peut que vouloir le mal. Toute sa volonté ne va que vers le mal et tout ce qu'il commet n'est que péché, parce que dans nos actes même les plus généreux, il y a toujours quelque chose de l'amour propre, de l'orgueil, du repli sur soi, de sorte que notre salut ne peut pas venir de nous. Ce salut ne sera pour Luther qu'une justification gratuite de Dieu qui nous tient pour juste, même si nous restons profondément pécheurs, contaminés par le mal. Luther est très sensible, disais-je, à cette condition misérable de l'homme. Et il est très vrai qu'il y a en nous une grande communion dans le péché. Nous sentons le mal des autres. Nous répondons très facilement au mal des autres. Il nous est toujours plus facile de critiquer que de louer. Il nous est infiniment plus facile de décrocher une remarque ironique et méchante face à un défaut de l'autre que remarquer telle ou telle qualité. Il y a de fait une sorte de complicité dans le mal entre nous. Une fois, en lisant un roman de Mauriac, bon, je viens de Bordeaux, j'utilise mes références, au détour d'une phrase, le lecteur devine une aventure amoureuse et peu glorieuse du personnage principal. Mais si j'avais été absolument innocent, je n'aurais rien remarqué. C'est ma complicité dans le mal qui me permet de discerner ce que l'autre ne fait que suggérer. Sauf que Dieu ne se contentera pas de cela. C'est précisément à partir de cette tragique communion dans le mal que Dieu se mettra à l'œuvre pour créer la communion des saints. Il prendra sur lui notre mort et notre péché. Et là où je suis solidaire du mal du monde, Dieu me rend aussi solidaire du salut du monde. Et ce salut n'est pas une simple communication du bien dans l'innocence. Ce salut est une rédemption et le combat et la lutte et l'intercession et la compassion qui passe aussi par le cœur de ces saints pardonnés. Car Dieu, pour nous les catholiques, ne se contente pas de déclarer quelqu'un juste. Il prend des pécheurs et il en fait des justes. Il prend un publicain et il en fait saint Matthieu. Il prend une pécheresse et il en fait Marie-Madeleine. Comme le dit l'Écriture si lourdement, ce salut est véritablement une création nouvelle, qui ne reste pas une sorte de titre extérieur, du regard extérieur que Dieu pose sur nous, mais la transformation la plus profonde et la plus vraie de notre cœur. Si nous cherchons notre identité la plus profonde, c'est celle-là. C'est cette rédemption que Dieu a accomplie dans notre vie. La communion des saints vient de là. Je me permets de citer quelques éléments de l'enseignement du Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Lumen Gentium. Comme vous savez, les chapitres 7 et 8 seront consacrés, le 7e, à cette tension dans laquelle nous vivons, la tension vers l'accomplissement final, vers la gloire du ciel, l'Église tendue vers cette réalité eschatologique. Et le chapitre 8 traitera de la Vierge Marie à l'intérieur de ce mystère de l'Église, non pas à part. Donc dans ce chapitre 7, en marche, en son union avec l'Église du ciel, paragraphe 48, les pères conciliaires écrivent ceci. Les derniers temps sont arrivés pour nous, comme dit l'Épître aux Corinthiens. Le salut de Dieu qui nous est donné nous met dans l'immédiateté de rapport avec Dieu. Les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis. Voilà. Ce salut n'est pas quelque chose d'extérieur. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté encore imparfaite, mais véritable. Cependant, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la terre nouvelle où la justice habite, l'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions qui relèvent de ce temps la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Nous vivons dès ici-bas de cette vie divine qui se déverse si largement dans notre sein et qui grandit ce qui est déjà pleinement réalisé dans les saints parvenus au terme de leur voyage est encore en train de se réaliser pour nous. Et pour méditer sur ce mystère, je nous invite à lire ensemble une très belle page de l'Écriture. Car il me semble qu'au fond, cet enseignement de l'Église catholique sur la sainteté dont nous vivons, sur ce que sont les saints, n'est qu'une explicitation au long des siècles, dans la pratique des peuples, de ce que la parole de Dieu nous dit et réalise. Je vous propose donc de reprendre le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean. Vous connaissez très bien ce lieu de l'Écriture. Jésus entre dans sa Pâque avec une souveraineté, majesté et douceur incomparable. Il y a ce signe des lavements de pieds, ce commandement nouveau qui nous est donné. Il suit un long discours, le discours d'adieu, que nous lirons au soir du jeudi saint pour réentendre sans cesse ces paroles. Chapitre 15 de saint Jean, donc le grand sermon, le grand texte sur la vigne. Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Le tout premier enseignement que le Christ nous livre, c'est celui de l'unité organique entre lui et nous. La vie dont nous vivons, c'est la sienne. N'est-ce pas ? Comme les sarments vivent de la vigne et ne peuvent vivre que de leur union avec la vigne. De même, toute la vie chrétienne n'est rien d'autre que le déploiement de la vie du Christ en nous. Et elle ne rajoute rien à la vie du Christ. Elle n'en est que manifestation, que fruition, que ces fruits qu'il porte en nous. Et c'est la gloire de mon Père, dit le Christ, que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu n'est pas jaloux des fruits de sa vie que nous porterons. Il se réjouit de notre sainteté. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits. Quel est ce fruit ? Quel est ce fruit que Dieu attend de nous et qu'il veut que nous portions ? Ce sont les actes de charité. C'est pas, tout au long de ce grand discours va revenir ce thème du commandement que je vous donne, de ma parole qui vous est donnée, qu'il convient de garder, d'observer, de mettre en pratique, de faire fructifier. Je vous donne le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce fruit que nous avons apporté, c'est la sainteté qui n'est rien d'autre que la vie du Christ, répandue, manifestée en nous par l'Esprit Saint qui nous fut donné, comme dira saint Paul dans Romains 5, 5. Et en même temps, cette fructification en nous n'est pas sans douleur, n'est pas sans purification. Tout en nous n'est pas d'emblée la vie divine. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte davantage. Toute vie chrétienne ne sera pas purement et simplement le déploiement paisible et heureux de la vie du Christ en nous. Cette vie comporte des luttes, des purifications, des abandons, des épreuves, souvent douloureuses. Et c'est vraiment une grande parole d'espérance, de savoir que si nous passons par ces moments de purification, souvent très durs, c'est précisément parce qu'il y a déjà le fruit qui est en train d'être formé. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre, demeurez en moi, comme moi en vous. C'est le thème qui parcourt tout l'évangile selon saint Jean, qui sera un des thèmes majeurs de l'enseignement de saint Paul, de l'unité organique des chrétiens avec le Christ, et donc de leur union les uns avec les autres. En cela, les saints ne sont jamais étrangers à notre union avec Dieu. Ils ne s'y rajoutent pas comme de l'extérieur. C'est le même corps du Christ qui grandit à travers l'histoire. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, il nous faut entendre radicalement cette parole. Et peut-être aussi la radicalité de la critique luthérienne nous ramène à cette parole du Christ, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » La vie chrétienne, la vie des chrétiens, n'est pas quelque chose qui se rajoute à la vie du Christ. C'est la vie du Christ qui s'accomplit en nous. Tant que nous pensons nos activités, notre prière, notre prédication, notre mission, notre travail quotidien, notre vie familiale, comme quelque chose qui pourrait se rajouter à, nous risquons de nous retrouver avec des rien dans le meilleur des cas, avec rien du tout à la fin. Toute la fécondité de la vie de l'Église ne dépend que de son union avec le Christ. Que de son union avec le Christ. Le mystère de la lune, elle n'a pas d'autre lumière que celle du Christ. Et si nous reprenons le Concile Vatican II, c'est pas cette phrase qui ouvre la Constitution, Lumen Gentium, la lumière des peuples, elle dit très bien, elle ne parle pas de l'Église, le Concile dit le Christ est la lumière des peuples, dont rayonne le visage de l'Église. Et malheur à l'Église si elle se prend pour la source de cette lumière. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Donc il y a une possibilité pour nous de ne pas demeurer en Christ. Et au fond, c'est toute la tragédie du monde déchu qui n'est jamais derrière nous jusqu'au tout dernier temps, jusqu'à l'accomplissement, ça sera notre combat. Tout don de Dieu, nous pouvons l'utiliser contre Dieu. Le premier don que Dieu nous fait, c'est nous-mêmes. Nous pouvons nous préférer à Dieu. Nous pouvons vivre de telle sorte que notre propre être devient l'horizon ultime de notre existence. Les choses les plus précieuses les plus belles que Dieu nous donne, nous pouvons les utiliser en quelque sorte contre lui, les couper de sa source, les extraire de cette circulation de vie qui vient du cœur du Père et qui doit revenir au cœur du Père, et nous pouvons les utiliser contre lui. Cette multiplicité des médiations que Dieu met en place pour notre joie et pour notre bonheur, nous pouvons les utiliser comme des obstacles. Ce monde créé, nous pouvons le prendre pour une sorte d'idole, comme l'horizon ultime de notre existence. La famille chrétienne, ou la famille humaine, qui est un don de Dieu, nous pouvons en faire un obstacle à notre communion avec Dieu. Toute amitié, tout amour, la piété elle-même, la vie de religion elle-même, l'Église elle-même, nous pouvons les pervertir de telle sorte que nous allons les utiliser contre Dieu, en quelque sorte en les utilisant pour notre propre intérêt, pour notre propre gloire. Pour notre propre gloire. Le conflit qui portera, entre autres, la narration chez Jean, le conflit avec, disons, les pharisiens, le montre bien. Quand même, les pharisiens, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le peuple du temps de Jésus. Les gens les plus observants, les plus pieux, les plus sérieux dans leur rapport avec Dieu, sincères, se privant de beaucoup de choses dans une fidélité qui n'est pas du tout évidente, dans une société qui s'éloigne de plus en plus des traditions, des valeurs de nos ancêtres pour s'orienter vers d'autres choses. Et c'est du milieu des pharisiens où viendront aussi certains des disciples de Jésus, mais c'est de ces mêmes milieux viendront aussi ceux qui le détesteront cordialement, parce que tout d'un coup, leurs traditions, leurs usages, leur manière de vivre s'avèrent ne pas être l'horizon ultime de l'existence. Il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. Le dessèchement qui menace régulièrement la vie de l'Église. Et contre ce dessèchement, Luther voulait réagir avec toute la virulence de sa crise religieuse, de sa crise de foi. Et quelque chose de permanent, la seule vraie réponse à ce dessèchement, c'est la sainteté. C'est l'union sans cesse renouvelée avec Dieu. Je repense à ce que disait en jeune à l'époque Joseph Ratzinger à la fin du Concile Vatican II. Il y a ce recueil de ses conférences qu'il donnait après les sessions du Concile. Donc Joseph Ratzinger, mon Concile Vatican II, a... Il est consultant au Concile, il revient du coup en Allemagne après chaque session, en donnant des conférences, et on voit un peu le changement de ton, l'approfondissement aussi de plusieurs thèmes, à partir d'un enthousiasme très, très immédiat de la toute première conférence, avec une vision plus complexe d'un dernier grand topo qu'il donne à la journée catholique, Catholic Tag, après Vatican II, et entre autres, il dit une chose suivante. Il dit, le Concile de Trente a permis une immense vague de sainteté. Il y a une sainteté en quelque sorte typiquement tridentine. Nous voyons quelque chose de commun entre Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola, Philippe Néry, etc. Il y a une sainteté tridentine, il y a cette floraison de la sainteté à la suite dans le sillage du Concile de Trente. Pensons aussi au grand siècle des saints, le XVIIe français. Ou bien, disait-il, le Concile Vatican II suscitera cette grande vague de sainteté, et alors ce sera le grand concile. Si ce n'est pas le cas, ce concile ne sera connu que de quelques spécialistes, comme le sont le concile de Lyon, Latran IV, concile de Bâle, et tant d'autres. La vague de sainteté, la vraie réponse à toute crise dans l'Église, à tout dessèchement dans l'Église, c'est pas d'abord telle ou telle manière de découper l'organigramme, de réorganiser les fonctions, c'est avant tout retrouver cette union vitale avec le Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Donc porter du fruit, c'est devenir de plus en plus les disciples du Christ. Parce que c'est quand même étrange qu'en s'adressant à ses apôtres, donc le cercle très choisi, il les exhorte à devenir ses disciples. Sans cesse, nous avons à apprendre de lui ce que signifie aimer Dieu et le prochain comme lui nous a aimés. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements et vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Et là apparaît aussi un autre thème qui, me semble-t-il, a manqué un peu à la pensée luthérienne. Luther sera le très grand commentateur de l'Épître aux Romains. Et en commentant ce texte, il sera saisi par cette opposition que Paul déploie entre la loi et la grâce. Et en quelque sorte, à la suite de Luther, nous aussi, nous aimons parfois opposer le commandement et l'amour. Mais peut-être la pensée, mais pas peut-être, la pensée de Paul est un tout petit peu plus complexe. La loi dont il parle, ce n'est pas la loi purement et simplement, c'est la loi sinaïtique. C'est la loi de Moïse. C'est une forme très particulière dans la loi qui a joué un rôle de pédagogue pour nous amener jusqu'au Christ. Tandis que le Christ lui-même se présente au long des évangiles comme le maître de la loi nouvelle, il donne un commandement nouveau. Et l'essence même de la loi nouvelle, dira saint Thomas d'Aquin, c'est la grâce de l'Esprit-Saint qui nous est donnée par la foi au Christ. Nous ne pouvons pas opposer l'amour et le commandement. Nous ne pouvons pas opposer cette structure de la loi et sa vie. Tout comme dans la vie d'une vigne, il y a cette structure organique, ce lien concret, réel, incarné, qui s'épanouit dans les fruits que la vigne porte. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. La communion trinitaire s'épanouira dans notre sainteté. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est peut-être une des paroles les plus sublimes de l'Écriture. Dieu se réjouit de notre sainteté. Dieu se réjouit de notre sainteté. Tout comme il prononce une grande parole de bénédiction sur une œuvre de création achevée, il y a une joie et une exultation de Dieu devant la sainteté de ses saints. Parce qu'il reconnaît à la fois dans ses fruits son propre amour, quand tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons, comme dit la préface des saints. Et c'est la joie de Dieu. C'est ce pourquoi il a créé le monde. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce comme dit que l'amour dont nous vivrons n'est pas autre que celui qui passe par le cœur transpercé de Jésus. C'est ce même amour qui animera notre vie. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ici apparaît un autre thème magnifique chez saint Jean, le thème de l'amitié avec Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Quel est ce tout qu'il a entendu de son Père et ce qu'il nous fait connaître? C'est précisément ce commandement d'amour. D'une certaine manière, on n'a pas d'autre chose à connaître, à savoir et à mettre en pratique que le fait que Dieu soit notre Père, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que nous avons à faire la même chose. Après avoir passé par sa mort, au moment de sa résurrection, Jésus fera un pas de plus. Va dire à mes frères que je les attends en Galilée. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Va dire à mes frères. Du coup, lorsqu'il assume pleinement notre mort pour nous donner part à sa résurrection, nous serons plus que ses amis. Nous serons les enfants d'adoption pour son Père, ses frères, dans le mystère pascal. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas une prétention de l'homme qui dérobe quelque chose de la gloire de Dieu avec ce fruit de la connaissance du bien et du mal dont l'homme s'empare dans le jardin des origines. C'est le choix de Dieu qui nous donne ce fruit de la vie éternelle et nous-mêmes nous le porterons. Nous serons cet arbre vivant planté du cours des eaux. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, n'est-ce pas, l'opposition, ce déchirement que la Pâque du Christ manifeste, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix, vous, cette primauté absolue de Dieu, mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Nous sommes condamnés à un certain déchirement d'ici jusqu'à la fin de l'histoire. Il y a en nous quelque chose du monde. Et le Christ va sans cesse nous arracher à ce quelque chose du monde qu'il y a en nous. Et notre union sans cesse croissante, espérons-le, avec le Christ sera en même temps notre déchirement vis-à-vis des puissances du mal et de la mort. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. La haine de ceux qui combattent le Christ ne se trompe pas lorsqu'ils persécutent les chrétiens. Dans les chrétiens, c'est le Christ que cette haine persécute. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cette unité de la vie du Christ et de ses disciples. Et je prends les derniers versets de ce chapitre. Lorsque viendra le paraclet, que je vous enverrai de près du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis les commencements. La vie de Dieu que le Christ est venu nous apporter soit répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est cette vie-là qui nous unira les uns aux autres. C'est cette sainteté-là qui grandira à travers tout le corps du Christ qui est son Église, et ce jusqu'à la gloire du ciel. Je terminerai par une citation du paragraphe 50 de ce même texte du Concile Vatican II dans Lumen Gentium, en parlant de cette gloire des saints que nous célébrons ensemble. C'est surtout, disent les pères conciliaires, dans la sainte liturgie que se réalise de la façon la plus haute notre union avec l'Église du ciel. Là, en effet, la vertu de l'Esprit-Saint s'exerce sur nous par les signes sacramentels. Là, nous proclamons dans une joie commune la louange de la Divine Majesté. Nous louons avec l'Église du ciel le seul et même Dieu. N'est-ce pas ? Et le but de la vie chrétienne n'est rien d'autre que d'entrer toujours davantage dans cette louange, dans une joie commune, la louange de la Divine Majesté. Tous rachetés dans le sang du Christ de toute tribu, langue, peuple ou nation, et rassemblés en l'unique Église, nous glorifions le Dieu un, en trois personnes, dans un chant unanime de louange. La célébration du sacrifice eucharistique est le moyen suprême de notre union au culte de l'Église du ciel, tandis que dans une même communion, nous vénérons d'abord la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, de Saint Joseph, des bienheureux apôtres et martyrs, et de tous les saints. C'est cette même et seule vie du Christ qui se déverse sur nous en surabondance et qui s'épanouit à cette unique gloire de Dieu. Merci beaucoup.
C'était la quatrième conférence du temps de carême avec pour intervenant frère Pavel Sizoyev. À la semaine prochaine et bon carême à tous.